Lucie Gilson a contacté Marc Nobel. Il est historien et spécialiste de l'antisémitisme et, vous vous en doutez très certainement, il réagit aux résultats récents du premier tour du scrutin des législatives anticipées qui ont eu lieu en France ce samedi. Prochain épisode, ce sera dimanche prochain avec à la suite de ces élections, le nouveau paysage politique de l'Assemblée nationale française. On écoute l'avis de Marc Nobel. Je vous le rappelle, au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Marc Nobel.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien et spécialiste de l'antisémitisme. Ce lundi, les résultats des législatives anticipées en France sont tombés avec une victoire du Rassemblement national, conséquence d'une dissolution qui avait déjà sidéré la classe politique française. Et d'ailleurs, on avait commandé cela avec vous à l'époque. Alors pour commencer, le Rassemblement national a réussi à obtenir 34% des voix en ce premier tour. Dans les médias français, on parle de choix des Français. Jordan Bardella a réagi dans son discours en disant que les Français ont fait naître un espoir sans précédent. Comment expliquer cette victoire ? C'est un plébiscite ?
Alors, dans les 34% dont vous parlez, que vous rappelez, il y a 29,28% pour le Rassemblement national. Et autour d'Éric Ciotti, c'est, disons, 3,91%, ce qui fait un total de 34%. C'est bien au-delà de ce que les autres réussissent à faire, et comme le nouveau Front populaire, qui, lui, est crédité de 27,98%. Un plébiscite, je ne sais pas si le mot convient, mais en tout cas, une vague déferlante. Oui, sûrement, et surtout si l'on regarde la carte de géographie des résultats qui ont été obtenus au premier tour. Et donc là, on a quelque chose qui s'accroche, un vote pour le RN qui s'accroche dans les territoires et des gens qui n'ont plus aucun a priori et qui votent donc forcément pour le Rassemblement national pour les raisons qui sont les leurs.
Alors le président français Emmanuel Macron, ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un véritable camouflet pour lui, une sorte d'échec politique, je dirais. Comment cette décision pourra affecter sa position et son influence en tant que président pour le reste de son mandat ?
Alors comment, moi je lis le passé, je ne lis pas l'avenir, donc... Je ne sais pas ce qu'il en sera après le 8 juillet, mais incontestablement, la position qui a été la sienne de dissoudre l'Assemblée nationale est une position inconséquente politiquement, parce qu'elle réduit à peau de chagrin sa propre majorité présidentielle, qui n'en est plus déjà, et parce qu'une nouvelle Assemblée nationale va voir le jour avec une prédominance très importante du Rassemblement national. Soit le pays sera ingouvernable si le Rassemblement national n'obtient pas la majorité absolue, soit il obtiendra la majorité absolue. Emmanuel Macron sera dans une position extrêmement inconfortable. Alors il y a deux hypothèses. La première, c'est que, au bout du compte, à un moment donné, non, même trois hypothèses. La première, c'est que Emmanuel Macron, au bout du compte, à un certain moment, démissionne parce que la situation lui sera impossible et qu'il n'arrivera pas à surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant lui avec une telle majorité si le RN obtient une majorité absolue. La deuxième hypothèse de travail, c'est que Macron réussisse malgré tout à jouer, à s'imposer, mais j'en doute, tout au moins dans les domaines réservés qui sont les siens, celui de la politique étrangère et de la défense, domaines qui d'ailleurs ont été minorés récemment par une déclaration de Marine Le Pen. Et la troisième hypothèse de travail, c'est qu'il pousse la Constitution ou il encourage ou il soutienne la Constitution d'un front républicain qui réunisse globalement la gauche social-démocrate et son ancienne majorité pour se dresser contre le Rassemblement national. Après, je ne vois pas d'autres hypothèses de travail. Par contre, ce que je ressens, c'est que nous placions sous la première, la seconde ou la troisième hypothèse, il est très amoindri dans l'espace qui est le sien, dans les politiques qui sont les siennes et dans le rôle qui est le sien, bien évidemment.
Alors, on rappelle que ce n'est que le premier tour de ces élections. Il y en aura un deuxième le week-end prochain. Hier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris et d'autres villes françaises pour manifester contre la montée de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a des chances que ce second tour change la donne ?
Alors, vous savez, il y a 33% d'abstentionnistes. C'est beaucoup quand même. C'est moindre que pour d'autres élections, puisque il y a eu un fort taux de vote lors de ce premier tour des élections. Donc, est-ce que les abstentionnistes vont, à un moment donné, les abstentionnistes du premier tour, se résoudre et aller voter pour quelque parti que ce soit présent au second tour? Bon, ça, nous verrons bien. Personnellement, j'en doute, ou en tout cas, si des abstentionnistes se rendent aux urnes pour le second tour, selon moi, ils ne seront pas si nombreux que cela. Après, ont voté, eh bien, ceux qui étaient déjà convaincus, c'est-à-dire ont voté pour le nouveau Front Populaire, les gens de gauche qui ont compris cette création d'un nouveau Front Populaire qui rassemblerait des figures extrêmement différentes de la gauche, et de l'autre côté, les électeurs du Rassemblement National, donc des gens qui sont quand même sûrs de leur, plus ou moins sûrs de leur choix. Et la réserve de voix est faible, en vérité. Donc, à l'heure actuelle, ce que nous avons, c'est un Rassemblement National qui flirte avec la majorité absolue, qui n'en est pas loin, à quelques députés près. On pourrait imaginer d'ailleurs que certains députés de divers droites tout d'un coup rejoignent le Rassemblement National et lui permettent d'obtenir la majorité absolue. De l'autre côté, les macronistes qui s'écroulent complètement, bon, c'est 20,03%, c'est peu, et en tout cas, ils n'arriveront plus à redresser la barre, et le nouveau Front Populaire qui est à 27,98%, ce n'est pas assez, le différentiel est quand même important, de 27,98%, disons 28%, à 34%, c'est un différentiel qui est quand même important, et donc on s'achemine incontestablement vers une victoire du Rassemblement National.
Alors Jordan Bardella avait déclaré déjà il y a quelques jours qu'il ne monterait pas à Matignon si jamais il n'avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Quels sont, si jamais c'était le cas, quels seraient les principaux défis auxquels il pourrait être confronté, notamment en termes de coalition et de gouvernance? Et qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire, par exemple, pour la communauté juive française?
Alors, vous me dites, si c'est le cas, quels sont les défis qui devra affronter
Jordan Bardella en tant que Premier ministre?
Les défis sont extrêmement importants. Déjà, c'est les défis de sa politique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cessé d'énoncer un certain nombre de propositions, et ces derniers temps, ils ont particulièrement reculé, fait marche arrière en disant soit qu'ils renonçaient à certaines des dispositions qui pourtant ont été inscrites dans, si je puis parler ainsi, leur ADN, qui s'ancraient même jusqu'au Front National, soit qu'ils ont dit qu'ils appliqueraient ces mesures, mais dans un second temps. Donc Jordan Bardella a défini des priorités à l'heure actuelle qui sont les suivantes: la lutte contre l'immigration, la lutte pour la sécurité et contre l'insécurité, et la hausse des prix. Et que dans un second temps, il appliquerait d'autres mesures dans la perspective des élections présidentielles de 2027, si elles ont lieu en 2027. Mais la situation économique de la France n'est pas bonne. Il y a une dette extérieure de 3 300 milliards d'euros. Il y a des positions qui sont celles du nouveau Front Populaire ou du Rassemblement National qui sont extrêmement onéreuses, si ce n'est même inapplicables, et qui vont faire monter les enchères au niveau des créanciers de la France et par rapport à notre dette extérieure. Et puis, il y a un paysage politique qui est bouleversé et il risque d'y avoir de forts remous dans les rues. Donc, la situation n'est pas bonne politiquement. Alors, on comprend bien pourquoi Jordan Bardella voudrait avoir une majorité à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'il se rend compte, un, de son inexpérience, deux, du caractère hasardeux de certaines propositions, trois, du fait qu'il va y avoir beaucoup de désordre dans le pays, beaucoup d'agitation, et quatre, qu'il est attendu au tournant, lui personnellement et le Rassemblement national, parce qu'au fond, si des gens ont voté RN, c'est parce qu'ils avaient tout essayé auparavant et qu'ils se disent pourquoi pas eux, et on va voir ce qui va se passer. Sauf que s'ils ne réussissent pas et s'ils déçoivent leurs électeurs, les choses seront extrêmement tendues, également pour le Rassemblement national, comme elles l'ont été, les choses tendues, pour les autres partis qui ont été des partis de gouvernement jusque-là. Pour la communauté juive, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où les électeurs, les Français de confession juive sont désorientés. Une partie d'entre eux, une partie plus importante d'entre eux, je pense, sont plus inquiets que Mélenchon ne devienne Premier ministre qu'il ne le serait si Bardella devient Premier ministre. Et beaucoup se disent, pensent pouvoir faire avec le RN, ce qui, de mon point de vue, est une grave erreur. Est une grave erreur parce que il s'agit quand même d'un parti qui est ancré dans l'extrême droite, qui a mené des alliances avec d'autres partis d'extrême droite, qui n'est pas foncièrement pro-européaniste. Et quant à savoir s'il serait le bouclier pour défendre la communauté juive, je trouve ce propos extrêmement dérangeant, déplaisant. Et pour moi, le seul bouclier pour défendre la communauté juive ne peut être en France que la République, et pas un parti politique, surtout pas un parti politique d'extrême droite qui plus est.
Eh bien, Marc Nobel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de l'antisémitisme. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.